Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Toutes et à tous, on va vous donner du bonheur, du plaisir, hein. On va pas dissoudre nous, hein. On va rester avec vous pour vous faire vivre donc pendant une heure et demie eh bien, l'actu sport sur Mon Paris FM. On aura naturellement un point foot avec notre ami Stéphane Desenclos dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on va être encore très multisport, très, très omnisport hein, ce soir. On va d'abord saluer notre invité, c'est Laurent Fauché, le président de ce qu'on dit le SAM, hein, Société Athlétique de Montmartre, Haltérophilie. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Oui, tout va bien ?
Eh bien oui, parfois. Ouais,
très bien, vous êtes venu donc nous parler. Voilà, vous êtes venu nous parler d'un sport dont on ne parle pas très souvent, sauf sur Mon Paris FM. Je vais saluer nos duétistes hein, qui vont nous parler de l'actu MMA de ce mois. Donc c'est Souleymane et Benoît que je salue. Bonsoir messieurs, ils sont en train de s'installer, ça va bien ?
Bonsoir tout le monde.
Ouais, pleine forme ?
Ouais, super.
Ah, j'ai vu les vidéos là sur les réseaux, c'est super. Là.
Ah, t'inquiète, on a,
hein,
on
t'as
a
beaucoup travaillé. Hein.
On a beaucoup travaillé avec Souleymane,
bien.
On est plutôt content.
Eh ben, vous allez nous parler de tout ça donc pendant tout ce mois. Lui, oui, ce mois de travail hein, que vous avez fait donc, pour cette émission. Lui a passé sa semaine sur Roland-Garros. Il avait un petit peu plus chaud que la semaine précédente. C'est notre ami Alexandre. Bonsoir Alexandre, ça va ?
Salut Philippe, ça va super.
Donc ça y est, c'est fait. Alcaraz a gagné son premier Roland-Garros.
C'est fait et franchement, c'est la relève de Nadal, je pense.
Bon, ça va, t'as pu mettre le bob et les lunettes là. C'était un petit peu.
C'est plus facile comparé à la semaine dernière, oui.
L'anorak. Et puis, bah, elle n'a pas pris le bateau, elle n'a pas voulu le prendre. Pourtant, elle nous parle de la flamme olympique. Bonsoir Vanessa, ça va bien ?
Oui, très bien. Bonsoir ouais. Philippe, bonsoir à tous.
Bon, la flamme, elle est où actuellement là ? Dans la mer entre la Guyane et puis la Réunion là.
Tout à fait.
Très bien. Donc, on aura l'occasion eh bien, d'en reparler. Puis, on vous donnera aussi quelques actus olympiques. Hein, parce que ça y est, c'est fait. Vous pouvez voir les anneaux à la Tour Eiffel. Hein, et puis, on connaît aussi la liste des sélectionnés pour les équipes de France, hommes et femmes de triathlon. On aura l'occasion d'en parler. Laurent,
oui.
Tout d'abord, depuis combien de temps président de l'haltérophilie et comment on en arrive à ce sport ? Comment c'est un sport très tôt pour vous ou de reconversion ?
Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai commencé l'haltérophilie à 14 ans.
Oui, donc c'est relativement tard. Ouais.
Non, j'avais 14 ans.
Ah, d'accord, ok.
J'avais 14 ans et en fait, c'est tout bêtement parce que mes frères en faisaient. Mmh. Et un jour, ils m'ont dit, tu viens à la salle. Et bon, j'ai pas eu tellement ma voix au chapitre. Cela étant, ça tombait plutôt bien parce que... Eh ben, l'ambiance était sympathique, l'entraîneur était assez génial et j'avais quelques qualités pour pratiquer ce sport. Donc ça m'a permis pendant quelques années d'arriver à un niveau honorable, je dirais, de fréquenter aussi des athlètes de bon niveau. Et puis après, il y a eu les aléas de la vie professionnelle qui ont fait que je me suis un petit peu écarté de tout ça. Et il y a quelques années, je me suis dit, ça serait peut-être bien de reprendre un peu. Mmh. Et aussi, puisque j'avais entre-temps des enfants, je m'étais dit, ça serait bien aussi qu'ils soient initiés à ce sport, même s'ils n'en font pas leur sport principal, au moins ils le connaissent et... ils pourront l'utiliser ensuite par rapport à dans leur vie pour l'entretien et tout ça quoi. Donc c'est pour ça que du coup je me suis rapproché de la Société Athlétique Montmartroise
qui est un des plus anciens clubs de France. Hein, n'ayons pas peur des mots. Hein.
Oui tout à fait puisque en fait le club a été fondé par Eugène Robert en 1898. Oh, ouais. Rue des Poissonniers, donc oui. On n'était pas très loin de notre emplacement actuel. Et à l'époque, c'était les hommes forts. Hein, et on a toujours au sein de notre club des bars à sphère qui sont de l'époque et qui sont l'héritage de ces premières heures de notre club. Quoi.
Alors ce qui est fou, c'est que c'est un club qui n'a pas eu d'interruption, qui a continué régulièrement depuis 1898 avec des équipes de dirigeants et de dirigeantes. Quoi. C'est remarquable quand même. Hein.
Tout à fait. Bah, en fait, il y a une tradition, d'hommes forts. Je veux dire par là que bah, chacun va un peu vers l'endroit où, bah, de tout temps, il y a eu toujours des gens qui ont voulu soulever des poids. En fait, je veux dire, c'est exercer sa force.
C'est vrai, ça fait partie de musculation, on en voit.
Voilà, ça fait partie des choses, comme ça. C'est un peu comme dans un ballon, taper dans un ballon. Enfin, voilà, il y en a d'autres qui aiment bien exercer leur force. Et donc, c'est vrai que à un moment, au début, la société athlétique était un des rares endroits où il y avait le matériel nécessaire. Parce que ce n'était pas si évident d'avoir tout ce matériel. Et puis par la suite, bah, y a eu une tradition qui a culminé dans les années 20-30, puisque là, on a envoyé quand même des gens aux Jeux Olympiques. On a eu quelques champions olympiques issus de notre club.
Ouais, c'est pas rien.
Voilà. Et puis aussi, ça a été un peu la grande époque de l'haltérophilie française, hein, avec des personnages comme Cadine ou Rigolo, qui étaient à l'époque considérés comme des champions mondiaux.
Enfin, oui, il y a même des stages et des gymnases à leur nom maintenant. Hein.
Oui,
y
tout
compris
à fait.
Sur Paris. Hein.
Absolument, parce qu'ils ont marqué leur époque quand même. Rigolo est très célèbre parce qu'il a été un des premiers à soulever 180 kilos à l'épaule jetée. Bon, et puis à l'époque, c'était quand même c'était une force de la nature. Hein. C'était des gens, on n'imagine même pas. Et leur réputation était même mondiale, puisque y avait une sorte de fraternité des hommes forts. Il était reconnu dans le monde comme étant l'homme le plus fort du monde. Quoi.
Mmh. Voilà. Et vous levez des poids de combien ?
J'ai eu...
allez, entre nous.
Disons qu'aujourd'hui, je n'ai plus grand-chose.
Ouais.
Mais dans mes folles années, quand j'avais une vingtaine d'années, mon record à l'arraché était de 110 kilos et mon record à l'épaule jetée était de 130 kilos pour un pas de corps de 80 kilos.
Ouais, alors vous parliez de lever des fontes et puis des poids. On s'en sert pratiquement dans tous les sports. Hein.
Ça,
c'est une base. Hein.
C'est une base, tout à fait. C'est-à-dire que... tout d'un coup, les gens ont... Il y a eu deux axes, en fait. Il y a eu déjà les gens qui ont compris que c'était un moyen excellent pour développer la force explosive.
Mm-hmm.
Il est très étonnant, d'ailleurs, de voir des vidéos sur la Fédération française de rugby qui expliquent ce que c'est que l'haltérophilie.
Ah,
Et que l'haltérophilie est pour eux, maintenant, pour les rugbymen, quelque chose d'un peu basique dans leur entraînement.
Oui, surtout quand on pousse en mêlée, quoi. On a besoin.
D'abord, on a besoin d'être fort.
Ouais.
Et surtout, on a besoin... l'haltérophilie, c'est un sport un peu particulier parce que on a besoin de ce qu'on appelle la force explosive.
Mmh.
Qu'est-ce que ça signifie ? Mais en fait, la force joue un grand rôle, bien évidemment, mais la vitesse d'exécution et la détente joue un rôle tout aussi important. Et donc, le rugbyman, quand il doit partir de l'autre côté à toute vitesse, bah, il a besoin d'être comme un sprinter. Mm-hmm. Et de la même manière, ça on le sait moins, pour ceux qui se rappellent de Guy Dru, qui a été champion
à Montréal,
de 110 mètres haies, c'était quand même un garçon qui faisait 110 à l'épaule jetée.
Ah oui ?
Ah oui.
Ah d'accord.
Pourquoi ? Parce que les sprinteurs, en particulier, ils ont besoin d'envoyer un maximum
L'explosivité, bah oui.
L'explosivité. Mm-hmm. Et bien ça, l'haltérophilie, c'est vraiment une qualité essentielle. Et ça, ils peuvent travailler donc cette qualité-là avec l'haltérophilie.
Mm-hmm. Alors, il y a trois disciplines, hein, je crois, dans l'haltérophilie. Hein. Il y a le développé couché, il y a le soulevé terre et puis le squat, c'est ça ?
Alors,
ouais.
Non, ça
non.
C'est...
c'est quoi ?
Alors, en fait... au départ, ça se ressemble un peu. Il y a une barre et des disques.
D'accord. Ouais.
Sauf qu'il y a deux disciplines assez distinctes. C'est l'haltérophilie d'une part et la force athlétique d'autre part. Mmh. Alors, l'haltérophilie, c'est simple. Il faut mettre la barre au-dessus de la tête.
Ouais.
Voilà.
Mais la comme force... ça, d'un coup, on est.
Alors, il y a deux mouvements.
Bah, c'est ça.
Il y a deux mouvements.
Voilà,
alors,
c'est ça qui est important.
Si on la met d'un coup au-dessus de la tête, c'est l'arraché.
Voilà, c'est ça.
Et si on la met en deux temps,
c'est l'épaule jetée.
C'est l'épaule jetée. Voilà. Mmh. Donc.
Et ça, on se spécialise ou on peut faire les deux ?
Alors, je dirais qu'après, c'est une question de goût, parce que la force athlétique, là, on ne met pas la barre au-dessus de la tête, mais par contre, on essaie de soulever les charges les plus lourdes possibles. Il y a trois mouvements principaux, c'est donc le soulevé de terre, c'est-à-dire que on prend la charge et puis on l'amène au niveau du bassin, globalement. Il y a le squat, c'est-à-dire on a la barre sur les épaules et on fait une flexion de jambes.
Ah d'accord.
Et le développé couché, où on est allongé sur un banc et on pousse la barre au-dessus de soi. Donc c'est les trois disciplines. Et là, c'est des mouvements de force pure. Alors, je dirais que les gens qui sont adeptes de la force athlétique, ils n'ont pas les qualités de détente de l'haltérophile. En revanche, je conseille des fois aux haltérophiles de faire un peu de force athlétique parce qu'on peut tout baser sur la vitesse, la détente, la souplesse et tout ce qu'on veut, mais à un moment, il faut quand même avoir de la force. Mmh. Donc, je dirais que c'est un petit peu complémentaire.
Mais c'est une discipline cousine ? C'est les mêmes fédérations ?
C'est le monde des poids et haltères, bien sûr. Mais il y a une fédération haltérophile, la Fédération française d'haltérophilie et musculation. Et il y a une autre fédération qui est la Fédération française de force. Et qui, elle, s'occupe de force athlétique, notamment. Alors, il faut savoir que ce sont les deux seules fédérations qui sont reconnues par l'État. D'accord ? Il y a quelques petites fédérations dissidentes en force athlétique, mais elles n'ont pas l'agrément du ministère des Sports, ce qui signifie que les titres de champion qu'elles peuvent décerner ne valent rien.
Elles ne sont pas homologuées. Quoi.
Elles ne sont pas homologuées. Tout à fait.
Vous êtes combien dans votre club à l'heure actuelle ? Vous avez réussi à passer toutes les différentes vagues ?
Ah, ça n'a pas été simple.
Hein. Bah oui, je m'en doute.
Ça n'a pas été simple, mais ça a été... donc, on est à peu près 150. Et ça a été un phénomène un petit peu curieux parce que, il y a eu, évidemment, je crois qu'on était tous au niveau du sport un peu logés à la même enseigne, après la grosse interruption liée au Covid. Mm-hmm. Donc, on se demandait quelle était la manière dont ça allait se passer pour la reprise. Hein. Et là, le phénomène un petit peu curieux auquel on a assisté dans notre club, c'est que tous les nouveaux adhérents venaient vraiment pour l'haltérophilie et pour la force athlétique. Alors qu'avant, on avait quand même une population de gens qui venaient un petit peu pour l'entretien, la musculation, etc. Ces gens-là, ils ont trouvé un petit peu leur bonheur avec les clubs de proximité qu'on trouve maintenant un peu partout à Paris. Donc, et ça leur suffit. En revanche, les gens qui veulent avoir une véritable expertise en haltérophilie, en force athlétique, ils viennent vers nous. Parce que on a les compétences requises, on a également le matériel, ça a l'air idiot comme ça, mais le matériel de force athlétique et d'haltérophilie homologué par les fédérations internationales, c'est assez précis dans les dimensions, les poids, les tolérances et tout. Oui. Donc là, et puis aussi, un autre truc idiot mais important, c'est que dans notre club, au sein du centre sportif Bertrand Dauvin, on peut faire tout le potin qu'on veut. On ne dérange pas les voisins. On est dans un petit bâtiment qui est un peu isolé. Oui. Et du coup...
Donc c'est un bâtiment, c'est pas une salle ?
Alors, c'est un petit bâtiment. Ouais, c'est un petit bâtiment. À l'intérieur, on a installé donc, tout notre matériel. Mm-hmm. Et l'avantage, c'est que on peut laisser tomber les barres. Parce qu'en haltérophilie, une fois que la barre a été effectuée, est à bout bras, on la laisse tomber. Dans certains endroits, ça peut être un inconvénient, parce que ça fait du bruit, etc., ou ça dérange. Alors que chez nous, le bruit des barres qui tombent, c'est un peu le bruit de fond. Hein.
Ouais. C'est du matériel qui coûte cher, ça, quand même, pour un budget, pour un club.
Oui, ça, c'est un certain budget, mais d'un autre côté, c'est du matériel qui dure.
Oui, c'est ça.
Une fois qu'on a acheté la barre d'haltérophilie, si on l'entretient régulièrement, c'est... Voilà, il y a peu d'usure en fin de compte.
Ça pèse combien tout ça ? Justement, vous parliez des.
Alors, la barre de d'haltérophilie homme, ça pèse 25 kg. Et la barre d'haltérophilie femme, qui est un petit peu différente, qui a un diamètre un petit peu réduit pour les mains féminines, donc pèse 15 kg.
Oui, et il y a les disques, hein ? Aussi.
Alors, les disques. Alors,
il y a des disques. Couleurs différentes, je crois savoir.
Tout à
aussi,
fait. Hein. Alors, le code des couleurs est le même dans les deux disciplines. Simplement, les disques haltérophilie sont en caoutchouc, alors que les disques force athlétique sont en fonte. Pourquoi ? Parce que les charges en force athlétique sont notoirement plus importantes. On peut avoir des gens qui soulèvent des 300 kilos. Donc, du coup, il faut tasser tous les disques. Et c'est pour ça que les disques force athlétique sont en métal, parce qu'ils sont plus étroits. Donc on peut en mettre beaucoup plus sur la barre. La barre également en force athlétique est un petit peu différente de celle de l'haltérophilie. Elle a un diamètre légèrement supérieur. Et surtout, elle est beaucoup plus rigide. C'est-à-dire que là, on a besoin de mettre beaucoup de poids. Et là, du coup, on a besoin d'avoir un grip un peu supérieur et surtout une rigidité nettement supérieure.
Et qu'est-ce qu'on met aux mains, là? À chaque fois, on voit les...
C'est de la magnésie, c'est du carbonate.
C'est pour tenir,
de...
c'est pour pas transpirer, c'est ça, non? Non,
c'est pour bien tenir. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il faut que la graine ne glisse pas, la barre ne glisse pas des mains. Donc, effectivement, pour assécher la transpiration et pour être sûr d'avoir une bonne prise, on met de la magnésie sur les mains, ouais, tout à fait.
Bon, nos amis, là, Benoît et Souleymane MMA, vous avez déjà tenté, là, dans la pratique du MMA, un petit peu de poids halter, un petit peu, allez, un petit peu d'haltérophilie?
Dans mon expérience personnelle, oui. J'ai déjà soulevé des poids, on va dire. Ça, c'est plutôt dans un cadre de musculation ou de sport en général. Oui. Mais après, tout ce qui va être de l'haltérophilie, non. La spécificité qu'on m'explique actuellement, non, pas du tout.
Clément,
pour ma part, oui, j'en ai fait, mais uniquement en soulevé de terre.
Soulevé de terre.
J'ai pas fait d'arraché ou d'épaule jetée. Je pense qu'avec mes petits bras, j'aurais pas tenu.
Non.
Alexandre, t'as jamais essayé, toi, dans tes entraînements de foot là.
Entraînement de foot, non, c'est plus du renforcement musculaire que de la musculation. Donc,
Bien sûr.
C'est pas dans les projets encore.
Bon, vous venez ça jamais, elle a des petits bras.
Non, j'ai jamais essayé. J'ai fait un peu de salle, mais pas de l'haltérophilie.
Alors, la tranche d'âge, elle serait partie combien? Est-ce que c'est un sport qui attire les jeunes?
Alors, la tranche d'âge, pour les jeunes, on peut commencer assez jeune l'haltérophilie parce que...
Il n'y a pas de contre-indication. Parce que quand même, le cœur, quand on soulève les fontes...
Non, il n'y a pas de contre-indication. Ouais. Souvent, le mouvement est très ergonomique dans les deux cas, à condition évidemment qu'on respecte les instructions de l'entraîneur sur les différentes positions. Moi j'ai commencé à 14 ans et l'avantage de commencer jeune l'haltérophilie, c'est qu'on chope on chope le mouvement beaucoup plus rapidement que des gens plus âgés, quoi. C'est-à-dire que le souci que l'on peut avoir à partir du moment où on commence un peu plus tard, c'est justement de ne pas pouvoir acquérir la technique qui va bien pour soulever la barre correctement. Au niveau de l'âge, donc on peut commencer relativement jeune. Nous, dans notre club, on fait très très attention à ne pas forcer. C'est-à-dire qu'on donne la priorité à l'acquisition technique et au travail général de conditions physiques. C'est-à-dire, ce qui est important pour les jeunes, c'est d'avoir une excellente condition physique. Et c'est pour ça que, en plus de l'éducation autour des mouvements, on leur fait faire des choses un peu cardio.
Ah oui, c'est-à-dire il faut courir, il faut faire du footing,
il faut faire du footing, il faut s'aérer l'été. On a aussi les kettlebells qui servent à ça. Et donc, nous, notre objectif, c'est ce que j'appelle ne pas cramer les jeunes, c'est-à-dire leur conseiller d'être prudent et d'attendre d'avoir une vingtaine d'années pour commencer vraiment à envoyer...
Quand même, il faut prendre des précautions. Les parents n'ont pas peur, ce sport? C'est une bonne image chez les parents?
L'image s'est améliorée. À mon époque, dans les années 70, l'image était associée à Alexei Alexeyev.
Le gros russe, ventripotent.
Et donc, le médecin de famille, on lui a dit qu'on faisait de l'haltérophilie, il nous a sorti, ça va faire des monstres, quoi. Ouais. Donc là, maintenant, ça a changé beaucoup. Pour deux raisons. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui font de l'haltérophilie.
Oui, alors j'allais poser la question aussi. Est-ce que vous avez beaucoup de pratiquantes femmes?
Oui. Alors là, c'est le truc, c'est le truc qui est étonnant, c'est que en haltérophilie, maintenant, je crois qu'on a plus de filles que de garçons.
Ah bon?
Ouais. Il y a des soirées filles à l'haltérophilie. C'est-à-dire que en fait, Ça, c'est un des bienfaits qui est lié au CrossFit, hein, qui a aussi fait beaucoup de publicité autour de la discipline. Mais ces dames ont compris que la pratique permettait de sculpter le corps, de faire un corps harmonieux. Et donc, il y a une bonne part de ça qui joue dans le succès de l'haltérophilie auprès de la gente féminine.
Donc, vous, c'est assez large quand même comme tranche d'âge. C'est bien représenté. Il n'y a pas une tranche d'âge où il manque un petit peu de personnes, un petit peu de monde.
Bah, on aimerait avoir un petit peu plus de jeunes, oui. C'est sûr. Oui. Souvent, quand ils arrivent, ils ont déjà pas loin de la trentaine. Voilà. Donc, alors c'est pas mort, hein. Mais je dirais que je prendrais l'exemple de notre meilleur athlète qui a commencé, donc il devait avoir 16 ans, quoi. Donc là, donc qui a fait une progression, comment dire,
régulière, constante,
régulière, axée sur le cardio, enfin tout ce que je vous ai expliqué. Et là, maintenant qu'il a 23 ans, là, il commence à envoyer dur en haltéro. Et donc là, il a participé récemment au Pouilly fédéral, qui est la troisième compétition française, où il a fini quatrième.
Ouais, alors justement, vous êtes un club aussi historique, on l'a dit. Vous avez donc eu des champions olympiques. Là, actuellement, les résultats sont bons?
Les résultats sont moyens.
Oui,
mais on ne cherche pas les résultats, honnêtement. Parce que moi, je suis issu d'une famille où, disons que mes frères étaient des athlètes de haut niveau. Mais.
Quel sport?
En haltérophilie.
Ah oui, d'accord. Okay. Non, mais ça aurait pu être un autre sport.
Non. C'est
d'accord. C'est des gènes familiaux, quoi. C'est bien.
Oui, c'est ça. Mais ouais. Voilà, disons que. Enfin, il y a un moment, faut pas se leurrer. C'est dans le sport de haut niveau, c'est toujours pareil. Il y a un moment, ça devient la vie à part entière, quoi.
Ah, c'est sûr.
Parce que, disons que, il faut, en gros, c'est assez simple. À un moment, enfin bon, si on veut des ambitions de haut niveau, c'est simple, hein, c'est le tonnage. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il faut, avoir soulever matin et soir dans des entraînements très durs, des répétitions. Là, il faut bénéficier de conditions vraiment tout à fait particulières pour et aussi il faut avoir une motivation très spéciale pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Mais je pense que c'est le cas de tous les sports de haut niveau, la
bien
MMA
sûr.
Ou autre.
Ouais, bien sûr.
C'est
ouais, les sacrifices sont les mêmes en fait.
Ah ouais, bien sûr. En plus, vous aussi, vous avez des catégories de poids, donc c'est des points communs avec les sports de combat. Quoi.
Absolument.
Il faut respecter le poids. Hein, donc là, Et bon, c'est un sport qui a souvent été soupçonné pour le dopage. Il y a des contrôles fréquents dans vos compétitions.
Alors, en fait...
Parce qu'on parlait d'Alexeyev, malheureusement, il y a eu aussi des gros soupçons à l'époque. Hein.
C'est étroitement surveillé, bien sûr. Effectivement, l'haltérophilie, il y a eu des scandales liés au dopage, au niveau de l'international, on s'entend.
Bien sûr.
En France, c'est quand même... en France, aussi bien en haltérophilie que...
En force athlétique, c'est très surveillé.
L'agence française contre le dopage... peut mener une action efficace. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'à partir du moment où on est déclaré compétiteur, l'Agence française contre le dopage peut frapper à votre porte à tout instant et vous pouvez subir un contrôle. Quoi.
D'accord.
Donc ça rigole pas trop. Mm-hmm. Donc des cas de dopage, aujourd'hui, ils sont extrêmement rares.
Oui, puis je crois que c'est assez sévère. Hein. Vous êtes radié à vie carrément dans votre fédération.
C'est fini. Hein. Donc mettre en balance des années de pratique, d'efforts et de sacrifices, tout ça parce qu'on a avalé quelques pilules malhonnêtes. Voilà, je dis, il ne faut pas jouer avec ça. Mm-hmm. Et en plus, on rappelle dans notre club que toutes ces choses-là sont fortement...
Oui, c'est une charte, quoi. C'est une charte qu'on signe. Hein.
Nous, on est notre club est affilié aux deux fédérations. Mm-hmm. Et donc, il est bien évident qu'à partir du moment où... notre rôle essentiel, c'est un rôle d'information, de prévention. Ça, c'est important. Et c'est même le plus important. Et après, on explique qu'il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. Et que le bâton, c'est méchant. Voilà. Mm-hmm. Ça veut dire que quelqu'un qui serait sanctionné, c'est pas arrivé, heureusement, mais quelqu'un qui serait sanctionné chez nous, automatiquement,
c'est fini,
il est exclu. C'est aussi bête que ça. Quoi.
Et puis, vous parliez justement des précautions à prendre. C'est un sport qui est dangereux. On se blesse souvent.
Non.
On peut se faire très mal.
Non. Franchement, c'est reconnu par les assurances comme étant un des sports les moins dangereux.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que en fait, on s'imagine des tas de choses, mais en fait, une barre qu'on rate, elle passe devant ou elle passe derrière. Elle vous tombe jamais sur la tête. D'accord. Les gestes techniques pour avoir une efficacité sont très ergonomiques.
Oui, parce qu'on peut faire un faux mouvement des fois aussi.
Oui, mais l'apprentissage technique fait que c'est rarissime, quoi. Vraiment rarissime. Mmh. Et depuis des années que je suis ce sport, des cas de blessures graves, j'en ai vu peut-être une fois.
Ouais.
Une fois. Mmh. Il y a longtemps, une compétition où l'athlète avait fait l'épaulé, il fait l'épaulé en flexion, et à ce moment-là, les muscles de son quadriceps sont lâchés, les tendons.
Ouf, ah oui.
Donc,
fatalement.
Donc, évidemment, après, il y a les pompiers, il a eu la chance d'être extrêmement bien opéré, donc il est revenu quelques temps plus tard, se réentraîner. Hein. Voilà, pourquoi est-ce qu'il s'est blessé ? Probablement parce qu'il n'avait pas fait un bon échauffement.
Ouais, ouais,
très, très souvent, c'est ça, quoi. Je veux dire,
Et vous avez des éducateurs, vous, dans votre club, alors qui justement conseillent les jeunes, vous en avez combien ?
Alors, on a un référent pour l'haltérophilie, un référent pour la force athlétique et un référent pour le kettlebell.
Mmh. Et vos créneaux, c'est 7 jours sur 7 ?
Alors, nous, notre créneau, c'est 7 jours sur 7.
Ouais. On peut venir tous les jours, quoi.
Oui, tout à fait.
Oui.
On a l'esprit quand même d'avoir un cadre, parce qu'il y a un moment, l'athlète, il suit son propre entraînement. Donc, quelque part, il faut avoir une présence, bien entendu, mais il faut quand même qu'il ait le maximum d'opportunités pour suivre son entraînement. Donc, à partir du moment où on commence à avoir des problèmes d'horaire un peu étroits, ça va limiter dans son entraînement, dans sa progression, et c'est quand même pénalisant. Quoi. Mmh.
Voilà. Alors, vous avez dit, le plus ancien club sur Paris. Oui. Il y a d'autres clubs parisiens d'haltérophilie, puis en Ile-de-France, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que c'est un sport qu'on peut pratiquer facilement sur le pas de la porte ?
Pas trop,
c'est ça.
Pour ceux qui veulent pratiquer, oui. ils peuvent aller soit à la force athlétique, soit à la... Alors déjà, sur Paris, il y a deux clubs. Il y en a un dans le 13e et il y en a un...
Donc Montmartre, hein, voilà.
Donc Montmartre,
autant le club de pétanque a disparu, on en parlait hors antenne tout à l'heure, on avait des représentants de la pétanque il y a quelques semaines, leur club était en sursis, malheureusement le club a disparu, autant vous, il n'y a pas de problème.
Bah, disons que nous, on fait très attention à participer à l'animation des événements du 18e. C'est-à-dire que il nous paraît important d'organiser des compétitions. Donc, en fait, on a une présence...
Il y en a beaucoup dans l'année que vous avez organisé, non ?
Nous, on organise... Alors, là, cette année, on a organisé le championnat d'Île-de-France des vétérans. Hein ? On a fait un tour de la Coupe d'Île-de-France des clubs. On a dû faire un challenge de l'avenir également. Ça, c'est pour l'haltérophilie.
Ouais.
En force athlétique, pour l'instant, on n'a rien fait parce que ça nécessite une logistique assez lourde qu'on n'a pas encore, tout à fait. Et en kettlebell, on organise...
C'est quoi le kettlebell pour...
Kettlebell, ouais. Voilà.
Les auditeurs le savent peut-être pas forcément. Hein.
Alors... Le kettlebell, c'est une sphère de 21 cm de diamètre avec une poignée. Et on va l'utiliser pour, alors, d'une manière générale, pour de la préparation physique orientée cardio. Mmh. Et il y a aussi une discipline de kettlebell sport qui consiste à effectuer un maximum de levées dans un laps de temps de 10 minutes.
D'accord.
Mmh. Voilà. Et donc, en kettlebell...
Et ça aussi, on se spécialise ou alors c'est accessible à tout un haltérophile ?
Eh bien, en fait, moi, je dis que la vérité, c'est de faire un peu tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait de l'haltérophilie pour travailler le mouvement haltérophile parce qu'on a envie de mettre au-dessus de la tête la charge la plus lourde possible, mais aussi en même temps faire de la force athlétique pour développer la force pure et en même temps faire du kettlebell pour développer son cardio. D'accord. Donc là, en fait, au niveau corporel, on a un équilibre qui est intéressant. Voilà. Mm-hmm. Après, chacun va dans le sens qui lui plaît le plus. Il y a des gens qui aiment les sports comme haltérophilie, où c'est vraiment de l'expositivité à fond. D'accord ? Et qu'est-ce qui nous attire là-dedans ? C'est une fois qu'on a tapé un record en haltérophilie, je peux vous assurer c'est un bonheur incroyable.
On surfe, on plane. Hein,
on plane. c'est vraiment une décharge de bonheur incroyable. La force athlétique, c'est une discipline assez similaire dans l'esprit à l'haltérophilie. Pareil, hein, si on fait un record, c'est super, on est sur le toit du monde, là. Et puis, le kettlebell, c'est de la résistance. Et donc, il y a une population qui, par exemple, aime les efforts de longue durée, style 1500 mètres ou 5000 mètres, qui aime le rythme, les efforts réguliers, qui aime bien faire ça. Et alors là, il y a un truc assez rigolo. C'est qu'une grosse partie de nos athlètes kettlebell, ils ont découvert ça au moment du confinement, parce que...
Ils l'ont fait chez eux, par les réseaux sociaux, non ? C'est ça ?
Ouais. Voilà, par les réseaux sociaux. Et surtout,
dans leur garage, sur leur balcon, dans leur salle à manger.
Autant haltérophilie, force athlétique, ça nécessite d'avoir une barre de 2,20 m avec des poids, enfin c'est très compliqué quand même.
Ah, dans le garage, ça peut le faire.
Voilà. Alors que le kettlebell, une petite serre, une poignée, et puis vous mettez un mètre sur un mètre, et puis vous êtes capable de faire 40 minutes à fond, et donc transpirer. Et ça, il y a des gens qui ont démarré effectivement comme ça.
Oui, ouais. C'est vrai qu'on parlait du Covid tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça a aidé vos disciplines, en salle notamment.
Oui, tout à fait.
Ouais, vous a permis de continuer pour certains à pratiquer l'activité physique, quoi.
C'est-à-dire que... Et puis surtout, les gens, je ne sais pas, il y a eu une mutation dans l'esprit des gens. Et tout d'un coup, vu que notre... les gens après Covid, les gens qui sont venus, ils venaient vraiment pour nos deux disciplines, faire force athlétique et aussi haltérophilie. Et il y a aussi une part de la population qui a fait du kettlebell, voilà. Alors, par exemple, il y avait un garçon, Jonathan, qui au départ... Alors lui, c'était vachement intéressant comme démarche, pour vous expliquer que c'est quand même assez ouvert. Lui, au départ, il était marathonien.
Ah oui ?
Marathonien d'une cinquantaine d'années. Et il est venu nous voir parce que les marathoniens prennent conscience qu'en faisant de la musculation, ils ont les possibilités de récupération supérieures qu'en faisant rien du tout. Parce que le marathon, 42 km... Ouais. Ça casse un peu quand même. Hein. Mm-hmm. Donc, il est venu au départ comme ça. Il a vu qu'on faisait de l'haltérophilie ici, essayer, mais à 50 ans, acquérir la technique, la coordination et tout ça, c'était pas évident du tout. Et il s'est mis au kettlebell. Et là, il a retrouvé des choses qu'il aimait, c'est-à-dire l'effort dans la durée, l'effort, le rythme, enfin, toutes les choses qu'il aimait bien quand il faisait du marathon. Donc là, maintenant, il est plutôt bon dans sa discipline.
Très bien. Allez, je vous laisse un petit peu souffler. On va, ça fera plaisir à notre ami Alexandre qui a passé la semaine de Roland-Garros pour faire le lien avec le tennis.
Oui.
On va écouter Yannick Noah avec Saga Africa. Allez, on y va.
Saga Africa. Africa. Saga. Le type là, ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, ambiance, sous-pousse, ambiance, Makossa, ou l'ambiance du Bikouti, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, droite, mouvement à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses.
pied au damage. Poulet braisé avec le meilleur. Ah, comment coûte le meilleur? Comment tu es calé à Elan Oiseau? Mais tu es un shogun, hein? Tu danses un peu bangal, mais c'est bon, mouvement de hanche. Ah, mouvement bangala. Et attention, le type là est trop dangereux. Viens, ma soeur, fio, l'affaire est très grave. Attention, ma soeur, attention, attention, à chaud.
Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secousses.
Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les lions indomptables. Nos chronos dégagent, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel donc chrono. Les défenseurs voient complètement flac. François Omambi, Amoti, église insolent. Deux solos et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas. Un dribble sorti tout dans le laboratoire footballistique des Toulis. L'affaire est grave, il tire au goal. Il y
Voilà, ça rappelle des souvenirs. Hein. Coupe Davis, 1991, avec donc la victoire de l'équipe de France qui était à l'époque donc entraînée par Yannick Noah. Justement, ça fait le lien avec le journal des sports et puis Alex Lang qui va nous faire un large bilan de cette quinzaine de Roland-Garros où Alexandre, mais c'est devenu une tradition, une coutume, les Françaises et les Françaises n'ont pas encore brillé, bien qu'on ait un Français qui a gagné quand même en double mix. Hein.
Et on a eu la chance d'avoir Édouard Roger Vasselin qui a gagné en double mixte, j'en parlerai un petit peu après. Mais on va commencer le journal des sports avec la victoire de forcément Carlos Alcaraz à Roland-Garros. L'Espagnol de 21 ans remporte son premier grand chelem français au terme d'une belle finale contre l'Allemand Zverev 3-2. Ça faisait 9 ans que Rafael Nadal et Novak Djokovic se partageaient ce trophée. Novak Djokovic d'ailleurs qui a dû malheureusement déclarer forfait pour son quart de finale contre Ruud à cause d'une blessure. Chez les femmes, comme je le disais la semaine dernière, Philippe,
elle a survolé l'épreuve.
Oui, la logique est respectée et c'est la Polonaise Iga Świątek, première mondiale, qui remporte sa finale contre l'Italienne Jasmine Paolini 2-0.
Ouais, alors toi qui étais sur Roland-Garros, comment t'expliques les 5-7 entre Alcaraz et puis Zverev? Ça a été un match quand même assez accroché.
C'était un match accroché parce que en plus Zverev il gagnait 2-1 à un moment et puis Alcaraz qui a su. De toute façon le tennis c'est toujours ça, c'est très mental.
Mais ils ont joué sur les fautes des autres quand même.
Mais
après c'est le mental qui fait.
J'ai envie de dire finalement le favori a gagné et je pense que c'est le début d'une grosse longévité pour Alcaraz. On retiendra également les déceptions françaises. Car sur 28 participants, seuls 2 ont atteint le stade des 8e de finale.
Comme d'habitude.
Oui. On peut remercier Varvara Gracheva pour les femmes et Corentin Moutet pour les hommes. Mais les Français n'y arrivent pas dans cette compétition et c'est assez redondant. Seul point positif de ce Roland-Garros, justement, c'est la victoire de Édouard Roger Vasselin, associé à l'Allemande Laura Siegmund. Il a décroché son premier titre de grand chelem de sa carrière en double mixte. Et pour la petite anecdote, il se partagera 122 000 euros avec l'Allemande.
Et c'est d'autant mieux qu'il paraît que personne ne voulait jouer avec lui. Et puis il a appelé sa cote.
Donc voilà.
Tant mieux.
C'est ça.
Tant mieux.
Et impossible de conclure cette page tennis sans avoir une pensée pour Rafael Nadal qui jouait son dernier Roland-Garros, qui malheureusement est sorti trop tôt, dès le premier tour. Mais 3-0 contre Zverev, finalement, le futur finaliste. Donc il n'a rien à se reprocher, j'ai envie de dire, Nadal, avec tout ce qu'il a accompli. Et c'est la fin d'une grande ère de tennis.
Grand monsieur.
Oui, grand monsieur. Et le prochain, ça va être Novak Djokovic malheureusement. Mais après, Federer, Nadal, Murray, Wawrinka, tous ces joueurs-là. Cette génération, c'est fini. Après, donc, on va parler des sacres En athlétisme.
Oui, ça marche bien pour les championnats d'Europe.
Ça marche très bien, parce qu'après les sacres de Gabriel Tual au 800 mètres, Alice Finot au 3000 mètres steeple et Sirena Samba Mayela au 100 mètres haies, la France occupe désormais la deuxième place du classement. Trois médailles d'or, une d'argent et deux de bronze. Les Français sont devant les Britanniques et leurs deux médailles d'or, mais malheureusement loin derrière les Italiens et leurs sept médailles d'or. 15 médailles au total pour les Italiens. L'information importante de la journée, c'est bien sûr la qualification qui est en bonne voie pour Kevin Mayer pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bien. Après notamment une très bonne performance ce matin en saut en longueur. Il a sauté 7,37 m en un seul saut et puis il a décidé de se contenter de ce saut et puis laisser ce 7,37 m pour... gérer sa qualification pour les Jeux Olympiques, donc c'est en bonne voie. On aura les résultats, je pense, demain ou ce soir.
Ouais. Championnat d'Europe qui se termine, je crois, en milieu de semaine, mercredi. Hein.
Voilà, c'est ça. On passe maintenant à la Formule 1 parce que c'était un week-end de Grand Prix à Montréal. Sans surprise, c'est Max Verstappen qui finit premier. McLaren poursuit sa belle saison puisque Lando Norris termine deuxième de la course et Oscar Piastri cinquième. Et Mercedes retrouve des couleurs et place les deux pilotes George Russell et Lewis Hamilton à la troisième et quatrième place. Au classement des constructeurs, c'est toujours Red Bull, toujours devant avec 301 points. Ferrari deuxième avec 252 points et McLaren troisième avec 212 points. Ce week-end signe également la fin du top 14 en rugby. Le Stade Toulousain remporte la saison régulière avec 76 points au classement. Le Stade français termine donc deuxième et se qualifie directement pour les demi-finales des barrages. Bordeaux-Bègles troisième, Toulon quatrième, le Stade Rochelais cinquième. Et malgré sa défaite contre le Stade Rochelais justement ce week-end, 24 à 19, le Racing 92 termine sixième et décroche donc une place pour les barrages. Ça s'est joué à très très peu avec... Avec le Castres olympique.
Et on va rappeler qu'en rugby, il y a des Bretons, Van qui monte en top 14.
Ouais,
donc dans l'élite du rugby, c'est super ça.
C'est ça. Bien. Et du coup, samedi, on aura droit au premier barrage, Toulouse contre le Stade Rochelais. Mmh. Et dimanche, deuxième barrage, donc Bordeaux-Bègles contre le Racing 92. Montpellier et l'Oyonnax, comme je l'ai dit la semaine dernière, sont relégables. Donc pas de surprise pour
eux. Oyonnax descend et Montpellier, je crois, jouera battu du match. C'était Grenoble. C'est Grenoble qui a été battu par Van. Voilà. Donc il y aura un Grenoble-Montpellier en match de barrage pour le maintien ou la montée donc en top 14.
Il y avait aussi le basket, forcément.
Alors Paris,
voilà. Les finales des playoffs de Betclic Elite se jouent actuellement entre Monaco et le Paris Basket. Et c'est serré, Philippe, puisque les Monégasques ont remporté hier la troisième manche 88-59. Ouais. Ça fait donc 2-1 pour Monaco. Si Monaco gagne mercredi soir, c'est fini. Ouais. Les Monégasques seront champions de Betclic Elite. Toujours bon de rappeler qu'outre-Atlantique plutôt, les finales de NBA se jouent dans le même temps et que Boston gagne 2-0 contre Dallas actuellement.
D'accord.
Le Barça peut se consoler en handball puisque les Catalans ont remporté hier la finale de la Ligue des Champions 31-30 contre les Danois d'Alborg. À noter la bonne performance du Français Melvin Richardson qui finit co-meilleur buteur de la finale avec 8 réalisations.
Oui, parce que Barcelone, c'est pas que le foot, hein. Il y a aussi le basket et puis le hand. Hein.
Ils sont très très bons dans toutes les catégories, même les féminines au foot sont très très fortes.
Oui, les championnes.
Sauf les hommes malheureusement.
ça reviendra Alexandre.
On espère. Et on termine ce journal des sports, Philippe, avec le classement final du Dauphiné libéré en cyclisme. Et c'est le Slovène Primoz Roglic qui remporte cette course, suivi par l'Américain Jorgensen et le Canadien G. Il faut attendre seulement la 15e place pour voir un Français dans le classement. Et c'est David Gaudu qui finit 15e de ce classement.
Ouais, belle victoire de Roglic, ce qu'ils annoncent, un beau Tour de France d'ici 3 semaines. Bon, Vanessa, la flamme, alors elle est en mer, comme ça, entre la Guyane et puis la Réunion.
Tout à fait. Donc, elle était hier en Guyane et puis là, elle se dirige vers la Réunion. Mais avant ça, elle a fait quand même du chemin. Mardi dernier, elle était en Vendée, au Sable de Lonne, cette célèbre terre de marins. Et c'est d'ailleurs Armel Lecléache qui a allumé la flamme au Sable de Lonne. On a eu aussi une très grande, très, très grande porteuse de la flamme, Isabelle Autissier. Très première femme navigatrice à avoir fait le tour du monde en solitaire. Et puis, cette flamme, évidemment, elle a visité les terres vendéennes, hein, le passage du bois qui relie l'île de Noirmoutier à la Vendée. Il y a eu de nombreux athlètes, notamment Charline Picon, Hugo Reville, Tom Mallet, et puis le Tom Christensen, hein, 9 fois vainqueur des 24 heures du Mans. Ça, c'était la Vendée. Et puis après, elle s'est dirigée vers la Baule, hein, le pays d'Assenis. C'est Roger Yves Le Bost, le grand cavalier qui a allumé la flamme. à la boule. Et puis, il y avait aussi de grands, grands sportifs comme le paranageur Philippe Révillon. Elle est partie après en Bretagne. Elle a visité le Morbihan de Lorient à Vannes. Et puis, c'est l'ex-attaquante de foot, hein, Eugénie Le Sommer, qui a allumé la flamme, qui a allumé le chaudron, évidemment. Morbihan, ça signifie petite mer en breton, mais c'est une terre de grande richesse, hein, comme vous le savez. Lorient, qu'on appelle aussi la ville aux cinq portes. Et elle est passée devant des grands lieux historiques, comme le Scala Saint-Martin, hein, l'escalier saint, qui est l'un des... C'est le troisième lieu de pèlerinage en France, tout de
D'accord.
même. D'accord. Voilà. Et des châteaux et des manoirs.
Bah oui, c'est le but de la flamme. Hein.
Exactement.
Ouais. De faire découvrir aussi le patrimoine de notre beau pays.
Et puis, il y avait aussi le reporter François-Xavier Ménage et aussi Alexandre Boyon qui
oui,
était présent.
Oui, qu'on connaît bien. Et qu'on salue. Je sais qu'il nous écoute des fois, donc on salue.
Voilà. Et, ouais. elle est également passée par le Finistère. Et puis, pour finir, en Guyane. Hein. En oui. Guyane, tout de même, elle est passée par Kourou, le célèbre centre spatial. Ouais. Et puis c'est Malia Metella, la médaillée d'argent sur 50 mètres à Athènes qui a allumé
le chaudron. En natation, oui.
Exactement, en natation. Et c'est sur cette unique terre française hein, qui est en Amérique du Sud que la flamme a pu voyager avec une cérémonie amérindienne. Hein, voilà, des choses vraiment typiques de ce territoire ultramarin. Et puis je vais vous parler aussi un petit peu des anneaux olympiques.
Ah bah oui, ça y est, je l'ai dit, ils sont à la Tour Eiffel, on
Exactement.
Peut les voir. Hein. Ils sont jusqu'à la fin des Jeux paralympiques qui seront enlevés ensuite fin septembre, début octobre.
Voilà. Ouais. Donc, c'était quand même un grand chantier. Hein. Ça a été
Bien
installé
sûr.
Entre la nuit du 6 et du 7 juin, entre le premier et le deuxième étage de la Tour Eiffel. 30 tonnes hein, au total. 29 avec l'expertise d'ArcelorMittal et puis la participation évidemment de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. 29 mètres de diamètre, me semble-t-il, 15 mètres de hauteur et 9 mètres de largeur. Un grand chantier, puis les réactions aussi des touristes et des habitants qui étaient émerveillés.
Oui, alors c'est vrai qu'ils sont à 60 mètres du sol et ça a nécessité l'utilisation de deux grues de 500 tonnes et de deux grues de 100 tonnes dans la nuit donc du 6 au 7 juin. C'est assez impressionnant et on les verra la nuit, ils seront en blanc les anneaux.
Et ouais. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'a marqué hein, dans l'étape de la boule. On a une joueuse de tennis de 81 ans
oui.
qui était porteuse de la flamme, Claudine Contose, 70 ans de tennis à son actif et championne du monde des 80 ans. Je voulais vraiment parler parce que c'est incroyable.
C'est ça la flamme et c'est ça les Jeux Olympiques. Allez, on passe au MMA, ils ont été très occupés. Alors messieurs, pendant un mois, quelle actu?
Et
hein,
quelle
vous avez vu sur les réseaux sociaux?
Bah écoute, hein on a trop de choses à te dire
ouais,
en fait. C'est ça le problème.
Vas-y.
Par où commencer? Ben moi je propose de commencer par l'international. Qu'est-ce que t'en dis, Soulé?
Bah je propose qu'on commence par l'international aussi.
Ouais. Du coup, vas-y, je prends la parole. Tu m'excuses, Soulé. Mais du coup, il y a une semaine ou deux. Non, une semaine déjà.
Une semaine.
On a assisté à l'un des plus beaux combats de MMA international entre Dustin Poirier et Islam Makhachev.
C'est au Zénith, c'est ça hein?
Ah non, là c'est l'international. On va arriver à ce qui s'est passé.
Bon, d'accord, je vais aller trop vite.
On garde le meilleur pour
oui,
la fin.
C'est bien, c'est bien.
Ah, bien sûr. Donc on parle de la Stazel pour ensuite parler de la France. Donc on parle déjà de ce qui s'est passé à l'international. Du coup, combat Dustin Poirier contre Islam Makhachev. Il faut savoir que Dustin Poirier, c'est lui qui a battu Benoît Saint-Denis, le combattant français, pour avoir ce qu'on appelle le title shot, le combat pour la ceinture, face à l'opposant Islam Makhachev, qui est l'actuel champion en titre. Et du coup, cette victoire s'est soldée par une défaite de Dustin Poirier et d'une victoire par Islam Makhachev. Victoire pas facile, car ça s'est fait au 5 rounds et au 5e round, Islam Makhachev a réussi à soumettre Dustin Poirier. Souleymane n'était pas très content, je pense.
Ah bon?
Moi, je suis pas content pour la simple et bonne raison que Dustin Poirier est un très grand combattant, qui a une très grande histoire et une très belle carrière au sein de l'UFC. Et d'un point de vue personnel, je préfère Islam Makhachev, mais pour l'histoire, j'aurais aimé que Dustin Poirier remporte le match, tout simplement. Ça a été une belle guerre, ça a été très intense tout du long. Ça a été impressionnant et comme Benoît l'a dit, au bout du 5e round, on a eu un vainqueur par soumission.
très très beau combat. Franchement, très beau combat. Je l'ai regardé trois fois. Ouais, tellement qu'il était incroyable.
Faut que tu travailles, hein.
Ah, je sais, mais bon, on est passionné. Bah, oui. En parlant de passion, là, on revient un peu sur la France quand même, à l'international encore. Là, c'était du coup, c'était dimanche matin, non ?
C'était dimanche matin, oui.
Dimanche matin, on a un Français qui a gagné, justement, qui est Nassourdine Imanov. Il a gagné encore à l'UFC, un combattant de l'UFC actuel. Et il a battu l'Américain canonnier. Ça a été un combat très, très difficile pour le Français, mais il a réussi à s'imposer par TKO au quatrième round. Franchement, il nous a fait peur. On a eu peur, j'ai mon cœur qui a battu la chamade tellement je voulais que Nassourdine gagne. Il a réussi à gagner, on est très content, je dirais, Souleymane. Franchement, une performance incroyable.
On est heureux, très très impressionnant. Malheureusement, on a vu que Nassourdine a entre guillemets pas encore le niveau professionnel que les autres combattants du UFC proposent, puisqu'il a été beaucoup beaucoup touché. Il
C'est
a
clair.
Été beaucoup beaucoup mis en difficulté. On a pu avoir peur à beaucoup de moments. Il a pris vraiment des coups très gratuits. Mais il a quand même eu sa victoire, ce qui est beau face à une belle boxe anglaise de la part de l'Américain canonnier.
Du coup, là, c'était notre premier combattant français. On a un deuxième combattant français, la même soirée, qui a gagné également Taylor Lapillus, qui a gagné face à Cody Stamann. Victoire, j'ai envie de dire propre, rien à dire. Ouais. Il a dominé, c'était un combat sur 3 rounds. Il a dominé les 3 rounds. Il était aux yeux de l'arbitrage vainqueur de ces rounds, donc c'était parfait. Pour ma part, j'étais content. Deux Français qui gagnent à l'international, à l'UFC en plus. Donc nous, on est très heureux, sachant que juste avant, quelques semaines avant, on était où, Souleymane ? On était à
l'Hexagone MMA 17. Hexagone qui est un organisme complètement français qui est actuellement en train de grandir. Comme je l'ai dit, on est à la 17e édition. Ça prend de plus en plus, ça intéresse de plus en plus de monde et on a le droit à de beaux combats.
Clairement,
très très beaux combats. On a eu la chance
d'y assister et même d'interviewer les combattants à la fin de leur combat. Donc on était très très heureux. Bon, on va pas oublier qu'on a quand même eu la victoire de la tête d'affiche, Greg MMA. C'est quand même une figure d'affiche. C'est lui qui met un peu en avant le MMA en France et on salue sa victoire d'ailleurs. On avait eu l'occasion justement d'interviewer le combattant Christopher Odena, qui a combattu lors de cette soirée, qui a gagné dès le premier round. On
Avec
a eu l'occasion de...
l'un
de...
des gestes les plus beaux.
C'est
vraiment.
Clair. High kick, non, c'était...
On a eu le droit à un middle kick au foie, un KO dit technique, puisque le combattant a eu une douleur tellement vive qu'il était incapable de combattre.
Mais sans conséquence, après, ça va aller mieux après.
On lui souhaite.
Parce qu'on l'a vu après le combat, il était dans les gradins à côté de nous, d'ailleurs, le combattant. Il était juste à côté de nous dans les gradins, donc il allait mieux, je vous rassure. Donc il y a eu la victoire de Christopher Odena, d'ailleurs, on l'a interviewé. Il nous avait même mis comme pronostic qu'il gagnerait au deuxième round, au final, il a gagné au premier round. On n'a pas hésité à lui signifier d'ailleurs qu'il n'avait pas tenu sa promesse, puisqu'il a gagné au premier round. Ensuite, on a eu le droit à une victoire de Nicolas Bivol. Qui est également combattant, lui qui s'entraîne au Free Fight Academy, dont on a eu Mathieu Nicourt, le directeur, qui est venu. Donc ça faisait plaisir parce que en plus d'avoir Nicolas Bivol qui a gagné, on a également la victoire de Bourama qui est également combattant au Free Fight Academy. Donc c'était une victoire de 3 combattants de la Free Fight Academy.
C'est bien.
Nous, ça nous a fait plaisir parce qu'on l'a invité ici, dans nos locaux. Donc de voir que ces 3 combattants ont gagné.
Donc dans
une grande soirée comme celle-ci, donc c'était parfait. Donc franchement, ça a été, j'ai envie de dire, quelques semaines bien chargées pour nous. On a pu assister à de beaux combats et on est très content. Et comme je te l'avais déjà dit dès le début, c'est que le MMA français, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et clairement, je suis clairement confiant pour les prochaines années à suivre. Le MMA français, on a encore de grands et de beaux combats. Et d'ailleurs, l'UFC Paris arrive bientôt.
Oui.
Donc on est très très enthousiaste et on a hâte de voir ce que ça va donner.
Vous irez maintenant pour notre radio.
On espère.
Ah, voilà. On sera ravis de couvrir cet événement.
Ouais. Ça vous intéresse, le MMA ?
Oui, parce que disons que mon fils à un moment a pratiqué quand il était jeune, il a pratiqué la lutte.
Oui. Et en fait, on avait aussi parlé la saison dernière.
Un sport très intéressant, vraiment méconnu. J'ai jamais très bien compris pourquoi ça marchait pas mieux la lutte, parce que franchement, c'est un sport vraiment éducatif, un sport merveilleux.
Ils ont failli le supprimer au jeu, mais l'ont maintenu finalement.
Oui, non, mais là, c'était juste insensé, quoi. Et du coup, son entraîneur pratiquait la MMA. Et donc, du coup, je me suis un petit peu intéressé à la chose. Cela étant, Bon, il faut avoir un gros cœur. Hein.
Ah bah ouais, bah oui.
Être sur le ring, là, c'est quelque chose. Ah bah ouais.
C'est le principe des sports de combat, ça impressionne toujours.
Il va combien le cardio, là?
Comment?
En combat, il a combien le cardio?
Oh waouh, alors là, c'est une question très scientifique.
Ouais, c'est clair,
je peux vous donner les calculs scientifiques, mais grosso modo, je pense qu'on monte facile un 120 et 150-180 au moment de stress. Ah ouais, très facilement.
Il y a un stress incroyable.
Oui, bien sûr. Puis il y a l'intox, il y a tout ça, il y a l'événement, quoi, tout ça.
Bah, c'est ça, en fait. Il y a tout cet engouement qu'il y a derrière. Et on ne va pas se mentir, on avait interviewé pas mal de combattants lors du MMA League. Et en plus du stress d'avoir le fait d'affronter quelqu'un, il y a aussi l'idée de on n'a pas envie de décevoir son club, on n'a pas envie de décevoir ses proches, etc. Bah, il y a tous ces aspects, tous ces calculs. Et donc, du coup, le combattant n'est pas juste concentré sur son adversaire, mais il pense aussi à tout ça. Donc ça augmente rapidement la jauge de stress et faut avoir tous ces éléments en tête.
Et puis surtout, faut pas oublier que c'est aussi indirectement un sport d'endurance, puisque pour les amateurs, on est sur 2 rounds de 5 minutes. Pour les professionnels, on est parfois sur des 3 rounds de 5 minutes. Et pour les gros combats, on est sur 5 rounds de 5 minutes. Donc on peut aller jusqu'à 25 minutes de combat. Ça peut être très, 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 très éreintant.
Vous aviez une question aussi, hein, t'avais une question, Suleiman, à poser à notre ami de l'haltérophilie, comme ça, vice-versa.
C'est ça. Moi, j'avais une question à poser. C'était comment est-ce que fonctionne le jugement en haltérophilie? Comment est-ce que l'on obtient des points ou une victoire?
C'est une bonne question, ça.
Alors, déjà, il faut mettre la barre au-dessus de la tête.
Oui, ça, c'est sûr.
Et une fois qu'il est au-dessus de la tête, il faut que la...
Il faut laisser une minute, non?
Non, pas du tout.
Non,
c'est juste, il faut être fixe.
D'accord.
Il faut être immobile et attendre que l'arbitre dise « terre ». C'est-à-dire que l'arbitre juge que le mouvement est fini, donc à ce moment-là, paf, il dit « terre ». Alors, après, il y a 3 arbitres dans les grosses compétitions qui jugent si le mouvement est correctement effectué ou pas, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut avoir soulevé la barre, mais le juge peut quand même sanctionner en disant que ça n'a pas été fait dans les règles indiquées. Alors, c'est un peu difficile en radio de vous expliquer ce que c'est, mais en gros, par exemple, ce qui est répréhensible, je dirais, c'est de tout finir en développé, c'est-à-dire à la force des bras. C'est-à-dire que la barre doit arriver bras tendus en un seul mouvement, que ce soit à l'arraché ou l'épaulé jeté. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Après, au niveau de l'athlète a 3 essais, donc il a 3 tentatives, et donc à l'arraché et à l'épaulé jeté. Et au bout de son match, on fait l'addition des charges qu'il a fait à l'arraché et de celles qu'il a fait à l'épaulé jeté. Et finalement, c'est celui qui a soulevé le plus lourd au total de ces 2 mouvements qui est déclaré, enfin, qui c'est son score. Et donc, on lui dit, il est premier, deuxième, etc.
D'accord. Donc, il y a très peu de contestations, quoi. Il peut y en avoir sur le MMA, des fois, sur une décision, mais...
Non, la contestation, c'est... Ah, si, un petit peu quand même, si, parce que, il y a certaines règles qui ont été imposées et qui, aujourd'hui, semblent prêtes un petit peu à confusion, parce que c'est vrai que quand on a vu l'athlète faire soulever la barre correctement... Je dirais correctement, et il est sanctionné parce qu'il a fait une petite faute technique. Des fois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Vous imaginez, il vient de soulever, je ne sais pas, 150 kilos. Il y a mis tout ce qu'il pouvait, quoi. Et puis, on lui dit, ah ben non, c'est essai parce que tu as fait une faute technique. C'est un peu compliqué. Donc, des fois, il y a des discussions. Il y a des discussions.
Oui.
Mais comme dans tout sport, hein, c'est quand même le juge qui décide. Hein.
Alors, j'ai oublié de vous demander, c'est possible de vous rejoindre maintenant ou alors il faut attendre le mois de septembre-octobre, la rentrée?
Ah non,
pour ceux et celles qui voudraient ou vous rejoindre ou emmener leurs enfants à ce sport.
On inscrit toute l'année, il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est un sport qui est cher.
Alors, notre cotisation annuelle est de 280 euros.
Ouais,
ça n'est pas excessif. Ouais. Et puis à cela, on rajoute la licence fédérale. C'est-à-dire que, comme on fait partie des fédérations, on dit aux gens, de toute façon, il faut payer la licence fédérale. Alors, la licence loisir, pour faire une pratique sans compétition, je dirais, elle est à 18 euros sur la Fédération française de force et à 20 euros sur la Fédération haltérophile. Et la licence compétition est à 43 euros sur la Fédération Haltérophile et à 75 euros sur la Fédération Forceuse de Force. Voilà.
Et les compétitions vont de quand à quand, de septembre à juin ou... Parce que vous, c'est un sport qui est en salle. Hein.
C'est un sport qui est en salle. Ouais, donc, alors, disons qu'il y a la rentrée. Ensuite, les premières compétitions elles vont se déclencher à partir de, d'octobre-novembre. Et alors, après, les deux fédérations ont des philosophies un petit peu différentes. À la fédération d'haltérophilie, je dirais que la saison s'arrête en gros fin mai, globalement. En la fédération française de force, ils ont dit on peut faire des compétitions toute l'année. C'est-à-dire que si moi, du jour au lendemain, je décide d'organiser une compétition, la fédération française de force m'y autorise sans problème. Alors qu'à l'inverse, la fédération haltérophile est un peu plus cadrée à ce niveau-là. Alors, les deux philosophies ont des avantages et des inconvénients.
Alors, vous disiez que vous organisiez beaucoup. C'est dans quel gymnase ? Bon, il y a l'Adidas Arena qui n'est pas ouam, peut-être, un séjour.
Non, en fait, à Bertrand-Dauvin, on a un gymnase merveilleux. C'est le grand gymnase du centre sportif Bertrand-Dauvin. Et il est parfaitement adapté aux compétitions qu'on organise. Et donc, alors, c'est donc un terrain de la dimension d'un... 500 mètres carrés, quoi. Et surtout, il a des tribunes qui sont plutôt bien faites, avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 500 spectateurs, mais qui sont en surplomb, avec une bonne vue sur, sur les compétitions. Et voilà. Et dans le cadre de nos activités, on organise les compétitions des deux fédérations. Alors, les deux événements notables qu'on a organisés là dernièrement, c'était le championnat d'Europe de Kettlebell. Donc ça, c'était un truc assez important. Et on a fait une grande première, première française, c'est la Coupe de France de strict curl.
C'est-à-dire ?
Alors, le strict curl, ça consiste à prendre une barre et à faire une flexion des bras et à reposer la barre.
D'accord.
Voilà, il y avait... donc, c'est vraiment du... C'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, je crois. Il y a des adeptes de ce genre de choses. Et on a eu quand même 60 participants. Pour une première, c'était extrêmement encourageant.
Pour l'équipement, c'est pas très cher, hein ?
Non, c'est non. Vraiment la dépense la plus importante à partir d'un certain moment, c'est d'avoir des chaussures adaptées.
Oui.
Donc chaussures d'haltérophilie.
C'est-à-dire, c'est des chaussures de salle, un petit peu comme pour la boxe ou tout.
Alors,
ça, non.
C'est des chaussures un peu. Je dirais, il faut qu'il y ait un talon pour pouvoir faire une flexion aisément.
Pour la prise,
et il faut que les semelles soient très, très stables. Parce qu'en fait, on a besoin de stabilité au sol.
Donc, bah oui, pour la prise au sol, bah oui.
Bah oui, tout à fait. Donc, c'est des chaussures un petit peu spéciales. Donc, c'est la seule dépense vraiment indispensable. Après, évidemment, il faut quand même avoir une tenue adaptée. Mais bon, ça va être le maillot de l'haltérophilie ou le maillot
classique,
de force athlétique.
Alors, ceux et celles intéressés, ils viennent carrément vous voir ou alors ils s'inscrivent par votre site internet, on a oublié de préciser.
Alors, ils peuvent nous contacter par notre site internet. Hein, donc, il suffit de taper sur Google Société Athlétique Montmartroise.
Ouais.
Voilà, et ils vont arriver assez rapidement à notre site internet. Après, ils peuvent nous envoyer un message. Et la plupart des gens, ils veulent savoir où ils mettent les pieds. Et ils nous demandent une séance d'essai.
Oui, c'est normal ça. C'est pratiquement pareil dans tous les sports.
Ce qui est tout à fait normal. Puis nous aussi, à la limite, on préfère parce que. Au moins, on voit.
Ça permet de voir, c'est vrai.
Bah, on voit s'il y a des atomes crochus, si le gars il est séduit par, par notre ambiance un petit peu particulière, hein, faut quand même le reconnaître. Et puis, voilà, si ça fonctionne bien, et puis si ça ne lui convient pas, il repart, et puis on reste bons amis. Et puis, si ça lui plaît, il adhère. Et puis c'est parti. C'est parti.
Alors, avant d'envoyer la page haute, vous êtes bicéphale. Hein, vous êtes en. Il y a deux coprésidents.
Oui, tout à fait.
Bon, c'est une coprésidente, là. Voilà.
Oui, oui. Voilà. En fait, j'ai l'immense joie d'avoir Elisabeth Kirel, qui est donc la coprésidente.
Ouais.
Alors. Donc c'était son. Comment dire, c'est assez marrant, Elisabeth, comme histoire. peux vous la raconter ?
Allez-y, ou alors après, hein ? Après, c'est à la fin, ou allez-y là maintenant, allez.
Ok.
Ouais, allez.
En deux mots.
Ouais.
Elle est venue parce qu'elle a un garçon, son fils, et un garçon un peu particulier. Il fait 2m10 de haut, il pèse 120 kilos. Et donc, il est un petit peu spécial. Et donc, elle cherchait des activités qui pouvaient correspondre à son gabarit. Et un jour, elle a voulu, elle était à la piscine, et elle, qui était donc dans le centre sportif, elle s'est dit, au fait, tiens, en fait, je vais peut-être traverser la piste d'athlétisme et je vais peut-être demander à ces gens qui sont dans le petit bâtiment là-bas si éventuellement mon fils pourrait faire du sport. Mmh. Et puis le fils, il n'est pas tellement resté, enfin, il est toujours là, mais il s'est pas vraiment passionné pour ça. En revanche, elle, au début, elle a dit, ben, je peux donner un coup de main. Et puis, on croit un coup de main, et puis de fil en aiguille, et ben...
Elle est coprésidente.
Elle est coprésidente, et elle est géniale, parce que, voilà, elle est... enfin, Elisabeth, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel par son sens de l'organisation, hein, que eh je ben, n'ai pas vraiment, moi.
Ouais, c'est des belles aventures humaines, c'est bien.
Tout à fait.
Allez, Bee Gees, How Deep Is Your Love, et ensuite, on va retrouver notre ami Stéphane de Denclos pour le foot.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Softly
Voilà, alors avant d'appeler mon ami Stéphane Desenclos, je voudrais simplement vous donner la sélection des équipes de France de triathlon. Hein. Ça a été dévoilé cette semaine aux journalistes par visioconférence. Chez les hommes, on a Léo Bergère, Dorian Coninx et Pierre Lecor qui ont été retenus et sélectionnés. Et chez les femmes, c'est Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi et Léonie Perriot. Le relais mix, lui, sera désigné pendant la période des Jeux. Voilà, on retrouve notre ami Stéphane donc, au téléphone ce soir. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir à toutes et à tous.
Bon, ça va, tout va bien. On va parler de ce qu'on va faire pendant l'Euro, mais auparavant, revenir un petit peu sur nos équipes nationales. Hein. On était assez euphoriques la semaine dernière après la victoire de nos filles en Angleterre 2-1. On est peut-être un petit peu moins après leur défaite sur le même score à domicile à Saint-Étienne, donc mardi soir 2-1.
Ouais, tout à fait. Ben, elles restent en tête quand même de leur groupe. Oui. Bien parti pour se qualifier, mais c'est vrai que ça a été un petit peu la douche froide.
Oui, alors on va rappeler, hein, elles sont en tête avec 9 points, devant la Suède et l'Angleterre 7 points, la quatrième c'est l'Irlande 0 points, il reste 2 matchs, effectivement, une date dont on se rappelle tous, hein, le 12 juillet France-Suède, et puis Irlande-France le 16 juillet, avant leur entrée en compétition dans le tournoi olympique.
Voilà, tout à fait, voilà, bah, c'est une bonne préparation pour le tournoi olympique, là, pour les filles en tout cas.
Oui, c'est ce que nous avait dit Hervé Renard, hein, qu'il se servait de cette qualification à l'Euro que les filles vont probablement obtenir comme match de préparation donc pour le tournoi olympique.
Oui, c'est là que la défaite contre les Anglaises à domicile en plus, elle glace un petit peu quand même la préparation et les ambitions de l'équipe de France, hein, qui va clairement chercher la médaille d'or, bien sûr, et qui fait partie des favoris, mais ben, on va voir si on peut encore... ça jette un petit doute quand même.
Oui, alors, on en parlait la semaine dernière, on est un petit peu plus optimiste pour les filles que pour les gars.
Ouais, bah ça s'arrange pas.
Ouais,
pour les gars,
oui, justement.
Les gens qui nous écoutent ou qui s'intéressent un peu au foot, ils ont suivi ça. Avec, bah, on en parlait déjà la semaine dernière. Je crois qu'il a donné la semaine dernière sa liste, Thierry Henry, mais c'était prévisible. Je sais pas si c'est un coup politique. Il a fait exprès de donner une liste avec des noms de gens qui savaient très bien qu'ils ne viendraient pas. Je parle de Emery, Barcola.
Bien sûr.
Notamment plus d'autres, hein, les Lillois par exemple, Chevalier, Yoro, Diakité, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors maintenant, on ne sait pas bien. Il a dit le point final deadline, c'est le 3 juillet. Et ils assurent qu'il y aura on ne comprend rien. Après, j'ai entendu dire que Savanier n'était pas dans la liste, mais qu'apparemment, il pensait l'appeler. si on considère que c'est un grand joueur, je sais pas. Donc, c'est un peu incompréhensible tout ça.
Ouais. En tout cas, ça n'a pas beaucoup changé depuis le 20 mars, hein, quand avait été donc dévoilé le tirage au sort des groupes, hein, et des phases de poule. Ça n'a pas beaucoup changé malgré le lobbying qui a été fait par le président Diallo. Est-ce qu'on peut être plus optimiste pour notre équipe de France de foot après ces deux matchs, hein, victoire contre le Luxembourg, tout à fait logique et mérité 3-0. Ça a été un petit peu plus compliqué hier avec le match nul contre le Canada 0-0.
Oui, bon, vous savez, avec l'équipe de France, hein, il n'y a pas vraiment d'être optimiste ou pessimiste. Rappelez-vous l'état d'esprit avant le Qatar.
Absolument.
L'état d'esprit avant le Qatar, c'était quand même un petit peu la catastrophe, quoi. Donc, et puis finalement, on a vu ce qui s'était passé. Donc, là, c'est pas non plus.
Non.
Après, il faut bien parler, hein. Donc, on a des problèmes de ceci. Moi, ce que j'ai eu quand même un Kylian Mbappé nettement.
Qui a retrouvé l'envie, qui a retrouvé la joie, c'est important.
Exactement, qui est là dans le groupe. J'ai vu, on a vu que par exemple, Colomouani, il repartait comme en 14, c'est-à-dire
bien meilleur qu'au Paris Saint-Germain.
Voilà, difficile saison avec le Paris Saint-Germain, mais dès qu'il porte le maillot de l'équipe de France, ça va beaucoup mieux. Moi, je suis pas très inquiet, si ce n'est que la concurrence, mais la concurrence, elle est pareille. Hein.
Bien sûr.
Les Anglais, ils ont perdu.
Oui.
Ils ont perdu contre l'Islande.
Oui, le Portugal a perdu.
Ouais. Les Allemands, ils ont gagné à l'arrache.
Ouais.
crois, dans les arrêts de jeu avec contre les Grecs. Donc c'est pas non plus. Mais on peut un peu comprendre hein, pour beaucoup de joueurs. Il y a eu du travail de fait, de la préparation. Et puis voilà, on n'a pas d'absent. On a quand même. Faut quand même souligner qu'on n'a aucun absent notoire, même si c'est vrai que ça va être compliqué pour Tchouaméni et même Coman qui est rentré hier, mais qui a eu beaucoup de difficultés quand même. On a bien vu hein, physiquement, même s'il a fait 2-3 belles choses, ça va être un peu plus difficile. On a retrouvé. Non, faut voir le bon côté des choses, je pense. Hein. On a retrouvé un N'Golo Kanté comme à son meilleur niveau.
Bah, Deschamps lui donne du temps de jeu, hein, donc c'est bien.
Ouais, tout à fait. Donc ça c'est parfait. Maintenant, autour de Kanté au milieu, je dirais que l'inquiétude pour moi, là, s'il y avait une inquiétude pour l'instant, c'est le niveau d'Antoine Griezmann. Ouais. C'est-à-dire que Antoine Griezmann, il est complètement à la ramasse là sur ces deux matchs-là. Et puis bon, bah, on connaît l'importance que ce joueur a dans l'équipe de France, en équipe de France. Donc c'est sûr que il faudra qu'il nous fasse autre chose que ce qu'on a vu là pendant les deux matchs.
Ouais, on sait que c'est toujours un petit peu particulier ces matchs de préparation. Hein. Faut. Voilà, on procède à quelques réglages. Il faut rester dans une dynamique de succès sans trop se mettre dans le rouge. C'est toujours un petit peu compliqué ces genres de matchs de préparation avant une grande compétition.
Un peu pour tout le monde, moi je trouve que c'est pas si mal parce que tu perds pas.
Ouais, voilà.
Bon, tu tombes contre une équipe effectivement du Canada qui a fermé à triple tour, qui a fermé à triple tour le terrain, l'équipe. Donc c'était effectivement un petit peu, peut-être un peu plus difficile contre eux, mais sinon tout le monde a joué à part les Rabiot, Tchouaméni et puis les gardiens hein, qui étaient préservés. On a vu quand même comme je dis, ça va être peut-être difficile pour lui, mais on l'a vu quand même. Faire 2-3 petits coups d'éclat sympas. On a vu Dembélé pas mal. On a Colomouani qui est pas mal. Oui, il y a le truc à faire. C'est espérons qu'avec la compétition, dès lundi prochain contre l'Autriche, Antoine Griezmann va monter le niveau de jeu. Quoi.
Ouais. Stéphane, peut-être des inquiétudes aussi pour Thuram et peut-être même un petit peu pour Giroud qui a semblé un petit peu moins fringant.
Ça dépend ce qu'on appelle une inquiétude parce qu'il y a 25 joueurs. Alors, l'inquiétude, si on parle par exemple de Thuram, mon inquiétude pour moi de Thuram, elle se situe au niveau du fait que Didier Deschamps a l'air de vouloir l'installer définitivement dans le trio d'attaquants. Il répète souvent que pour lui, il est complémentaire de Kylian Mbappé. Il le fait débuter les deux matchs et jouer largement dans les deux matchs. C'est vrai, c'est ce qui m'inquiète un petit peu maintenant. Si on prend pas, on peut dire hein, c'est ce que je dis toujours. Moi, le coach, le professionnel et qui nous a appris et qui nous a montré qu'il savait gagner, c'est quand même Didier Deschamps. Hein,
absolument.
Donc, s'il décide de faire ça, peut-être qu'il a une raison, mais c'est ça qui est inquiétant. Maintenant, quand tu as Olivier Giroud, c'est pas moi qui vais pas vous dire que pour moi il est sélectionné. Moi j'aurais 10 fois préféré voir Christopher Nkunku par exemple. Si on veut critiquer les coachs, même s'il était à court, il n'avait pas joué beaucoup. Il avait été blessé pendant 3 mois, je crois. Il revient, il a déjà fait 2 bouts de match pour faire des bouts de match.
C'est le dernier grand combat, quoi. C'est le dernier grand combat pour quand même le meilleur buteur de l'équipe de France. Il ne faut pas l'oublier quand même.
Mais bon, il ne faut pas que ça soit non plus un boulet, quoi.
Oui.
Je veux dire, maintenant, effectivement, tête frais, rentrant un quart d'heure dans les matchs hyper fermés, un coup de tête ou même un match. Pour défendre avec sa prestance physique et tout, pourquoi pas. Mais maintenant, je pense que tout le monde a compris que je pense que c'est le dernier match que Giroud a commencé comme titulaire avec l'équipe de France. Quoi. Mais
allez.
C'est pas lui en vouloir d'une critique, hein. C'est un énorme joueur.
Immense joueur. Alors justement, Deschamps, l'Euro, il ne l'a jamais gagné, il veut le gagner, on en parle sur notre radio, donc sur Mon Paris FM. Alexandre, tu vas nous rappeler quand même les différents groupes hein, de ce qui nous attend. On va quand même rappeler que l'Euro, ça commencera donc sur notre antenne vendredi entre l'Allemagne et l'Écosse à partir de 20h. Donc de 20h jusqu'à minuit, on sera à l'antenne avec un avant-match, des commentaires et ensuite un après-match. Donc tu vas nous rappeler au fur et à mesure les groupes, ce qui nous attend. attend donc durant ce mois de compétition.
Absolument, donc on commence par le groupe A forcément et le pays hôte, l'Allemagne, qui affrontera donc l'Écosse, la Hongrie et la Suisse.
Ouais. Alors, Allemagne-Suisse, ils peuvent sortir du groupe, Stéphane ?
Là, ça, derrière l'Allemagne, ça me paraît quand même très, très ouvert. Ouais. Et, oui, sur le papier, ça devrait être la Suisse, mais je ne suis pas sûr. Hein. Franchement, je ne suis pas sûr. Hein.
D'accord.
Je pense que l'Écosse et la Hongrie, ils ont leur...
Peut-être la Hongrie qui avait fait un bel euro il y a 3 ans chez eux. Hein. Mais enfin, bon.
Groupe B, on aura droit au fameux groupe de la mort avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Très, très gros groupe.
Là, c'est un groupe où on sait que les 4 meilleurs 3e sont qualifiés. Donc,
ça, c'est sûr.
Donc, Italie, Espagne et puis Croatie. Hein ?
Ça va être compliqué pour l'Albanie, c'est sûr. Groupe C, on aura la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre, qui part donc favori, je pense.
Angleterre-Danemark ?
Normalement, moi, le Danemark, pour moi, le Danemark fait partie des outsiders, des équipes qui derrière les, il y a deux favoris, c'est l'Angleterre et la France. Derrière, il y a 4-5 équipes, Portugal, Espagne, Allemagne, Belgique, et puis et je ne sais plus lequel. Et derrière, il y a des outsiders, il y a aussi, justement, je ne sais plus lequel, c'est dans le derrière, dans l'outsider, le Danemark, à hauteur de, ils peuvent faire quelque chose, ils sont plus fort, ils ont fait un très bon Euro 2020.
Oui, ils avaient été en demi-finale, battu par les Anglais.
Deux ans, il me semble.
Sans Eriksen, c'est là, on se souvient tous de ce qui lui est arrivé
sur le terrain.
C'était le premier match, le deuxième match. Et puis aujourd'hui, ils ont aussi récupéré un buteur, le buteur qui. Højlund, je ne sais pas exactement comment on prononce ça, Højlund, le buteur qui a signé à Manchester United, qui est un très bon joueur, qui a fait une bonne première saison en Angleterre. Et je pense qu'ils ont, ils ont de quoi présenter quelque chose de solide.
Ensuite, la suite.
Groupe D, donc on aura la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Donc c'est le groupe pour les
deux. France, Autriche et puis Pays-Bas.
Faut pas enterrer la Pologne, Philippe.
Ouais, ça va être serré, enfin on verra. Entre la Pologne et l'Autriche, ça va être serré pour aller chercher une troisième place. Ouais. Hein, Stéphane ?
Normalement c'est. Il y a normalement un match pour savoir qui sera premier et deuxième entre la France et les Pays-Bas.
Oui.
Je pense qu'on est au-dessus de la France et au-dessus des Pays-Bas.
Absolument.
Et puis après, le meilleur troisième, espérons pour la Pologne ou l'Autriche. Mais même, on peut avoir une surprise. La Pologne, je ne sens pas du tout la Pologne. Mais entre l'Autriche et les Pays-Bas, il peut y avoir match.
Ouais. Puis on se rappelle, on les avait battus donc en 8e de finale du mondial. On l'avait vécu sur notre antenne, sur mon Paris FM. 3-1. Ensuite, donc, Alexandre.
Ensuite, donc, on aura la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine pour le groupe E.
Bon, Belgique-Ukraine. Non.
Belgique, oui. Ukraine. Peut-être. Je sais pas. C'est dur. C'est dur avec les. Les événements géopolitiques. C'est un petit peu dur de savoir dans quel état sera exactement cette équipe. Il y a la Roumanie, c'est ça dans ce groupe-là.
Non. C'est pas la Roumanie.
Il va nous le rappeler. Donc,
C'est pas la Roumanie. Ouais. C'est. C'est la Roumanie, la Slovaquie et la Belgique. Pardon. Excuse-moi.
La Roumanie ils sont en plein renouveau, ils n'ont pas fait une très belle préparation, ils arrivent un peu sur la pointe des pieds, mais c'est pas la Slovaquie. Non, dans les trois autres là, ça à mon avis ça va être chaud derrière. Normalement la Belgique passe, mais je sais pas si la Belgique sera très performant.
Souvent, on en attend beaucoup et puis finalement, ils sont peu présents.
Ils ont quand même quelques soucis un petit peu en interne.
Comme souvent.
Vous savez que Thibaut Courtois ne fait pas l'Euro officiellement parce qu'il était trop court pour après sa blessure, mais il a quand même fait la finale de la Ligue des Champions
il a été très bon.
Officieusement, parce qu'il y a quand même quelques soucis déjà avec l'entraîneur et peut-être avec lui dans le groupe. Et je pense qu'il y a d'autres problèmes. Là, je crois qu'il y a Meunier, je ne sais pas si c'est officiel, mais qui allait peut-être déclarer forfait. Je pense que défensivement, ils sont pas, ils ont un petit blessé. Maintenant, on sait jamais avec De Bruyne et puis Lukaku. Mmh. On sait jamais ce qui peut arriver, quoi.
Ouais. Ouais, il est incertain, Meunier. Il est touché à la cuisse droite.
Mmh. Voilà. Et ensuite, donc.
Et enfin, le dernier groupe. Donc, c'est la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque.
Bon, Portugal, oui. Après, Turquie, République tchèque, non?
Ouais, ouais, normalement. Mais bon, moi, je tu sais, moi, j'aime bien les petits. Les
oui,
petits,
oui, bah, il y a souvent une surprise, hein.
Cette Géorgie, je vais regarder les matchs, moi, de la Géorgie.
Parce que...
Avec le joueur de Naples, là, avec un mois couché dehors, là.
Varadskhelia.
Et puis Nkotadze, c'est des joueurs des potentiels offensifs. On a quand même dans une toute petite équipe comme ça deux des meilleurs attaquants de l'Euro, quoi. Donc ça peut être intéressant. Ils peuvent peut-être faire des choses sympas. Ça va être intéressant à regarder en tout cas.
Oui, parce qu'on se rappelle par exemple d'une équipe comme le Pays de Galles qui avait joué la surprise, qui avait été en demi-finale à l'Euro 2016. Hein. On s'en rappelle, hein, battu même par les Portugais.
2-0 aussi.
Ouais. Donc comme quoi il peut y avoir parfois quelques petites surprise, même dans un euro de foot. Voilà.
Et surtout que c'est Willy Sagnol, l'entraîneur, le sélectionneur de la Géorgie.
Oui, bah qui sait, ouais.
Donc rendez-vous le 14 juin, du coup, Allemagne-Écosse, vendredi. Oui,
c'est ça.
C'est
ça
vendredi
sera,
à 21h.
Ça sera l'ouverture donc sur Mon Paris FM. On vous fera vivre donc toute cette compétition et ce jusqu'au 14 juillet. Voilà, merci Stéphane. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour les directs de foot. Hein. Moi, je serai à Düsseldorf, mais enfin, il y aura une émission autour.
Voilà. On va écouter ça, l'ambiance et tout.
Ça va être sympa.
Avec toi, Philippe.
OK. Allez, merci.
Allez.
À très bientôt.
À tous.
Merci Stéphane.
Bonne soirée.
Voilà. Le foot, ça vous intéresse? Pas trop.
Tout le monde aime le foot. Hein.
Oui, c'est bien.
Donc
l'euro, vous allez vibrer. Bon, je sais bien qu'il y a une période électorale qui rentre, mais enfin bon.
Non, le foot, ça peut être tellement génial. Mm-hmm. Je veux dire, je ne suis pas assidu, je ne suis pas spécialiste. C'est loin de là, hein, mais de temps en temps, je suis des matchs. Je crois que tout le monde se souvient de certains matchs avec des remontées incroyables, des buts de dernière minute ou des exploits techniques qui font qu'on est là en train de se dire « Oh, comment il a fait ?» Je me rappelle de Zidane qui était un milieu de terrain, était un magicien ce garçon.
Ah bah bien sûr.
Voilà, donc il avait une vision du jeu qui était absolument incroyable. Il faisait une passe, on se demandait où ça allait. Et puis là, tout d'un coup, bing, il avait vu l'ouverture et puis ça rentrait au fond des cages. Non, tout le monde aime le foot.
Par contre, les jeux, vous allez les suivre, vous allez être présent. Hein. On peut gagner beaucoup de médailles, c'est peut-être ce qui donnerait des valeurs à votre sport.
J'espère que d'une part, la France va briller quand même. Parce que moi, j'aime mon sport, mais j'aime tout le sport. Hein.
Oui, bien.
En haltérophilie, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas au plus haut niveau. C'est parce que les Chinois ont fait une razzia sur ce sport. C'est sûr que quand on voit une école d'haltérophilie chinoise où il y a 500 petits garçons qui apprennent la technique, il y a un phénomène de masse qui est quand même assez compliqué à gérer, quoi. Parce qu'ils sont très très nombreux et ils sont très performants. Et voilà, quoi. Il y a un moment.
Très bien.
Il faudrait modifier quelques structures du sport français et ne pas laisser le hasard uniquement lié au destin des sportifs.
Très bien. Laurent, en tout cas, merci d'être venu nous parler de votre sport. À très bientôt.
Qui te remercie, Philippe.
Merci à Alexandre.
Merci à toi.
Rendez-vous
à
la semaine prochaine. Tu tiens donc compagnie à Vanessa qui sera aux manettes la semaine prochaine.
C'est ça.
Entre 19h. Et 20h avant notre grande soirée foot, donc entre 20h et minuit. Voilà, belle soirée à toutes et à tous. Merci donc à Jason et puis Leonard d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes. Tiens, pour se mettre justement, et nous on sera en configuration euro à partir de la semaine prochaine et les prochaines semaines jusqu'au 15 juillet. Et justement pour se mettre en jambes et en forme, on va écouter la musique de l'Euro 2024. Allez, belle soirée à toutes et à tous et vive le foot et à très bientôt.
We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on.
It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now I'm shining like a sea of gold. Yeah, yeah. We'll fight tonight like a million diamonds in the sky, and we'll on fire.